des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, comment allez-vous? Clotilde Saille en votre compagnie, avec bien évidemment des invités. C'est l'émission des livres plein les oreilles qui commence et des titres, on va en avoir beaucoup à vous proposer. Et comme mine de rien, on se rapproche tout doucement mais sûrement des fêtes et de Noël, eh bien il va y avoir notamment en seconde partie beaucoup de titres de livres de Noël qu'on voudrait vous proposer, soit à lire, soit peut-être à offrir, allez savoir. Mais la première partie, ça n'aura rien, mais alors rien à voir avec Noël. On va faire un peu plus dans l'angoisse. On va faire un peu plus dans... Oh, écoutez, je ne vous en dis pas plus, mais si je vous dis que Patrick Sonnecal est déjà en studio, déjà au départ, vous avez tout compris. Ça va bien, Patrick?
Ça va très bien, merci.
Ravi vraiment de vous avoir avec nous. C'est la première fois que vous venez à l'émission.
Oui, alors... je découvre l'endroit et je trouve ça assez génial, en fait.
Oui, hein?
Ouais, ouais, tout à fait. Ouais,
et puis regardez, on a un studio déjà complètement illuminé.
Oui,
quelle couleur de Noël.
Ouais, ouais, ça clignote partout. Là, c'est
et
très
là, on a un Père Noël qui veille sur nous ici au centre.
Ah oui,
oui, absolument.
Je ne l'avais pas vu.
Ah oui, non. Mais il me regarde très, très intensément. Il fait vraiment, il veille à ce que je ne raconte pas de bêtises. Et la première personne, avant que je m'adresse à vous, oui. Patrick Sonnecal, la première personne qu'on va aller retrouver, c'est Huguette Roussel, qui est à l'autre bout du fil. Bonjour Huguette.
Bonjour Clotilde.
Ça va bien?
Ça va très bien, vous?
Très très bien. Je vous remercie beaucoup Huguette de nous avoir proposé le livre dont vous allez nous parler aujourd'hui parce que ça fait très peu de temps qu'il est arrivé en audio adapté. Et j'en avais parlé, mais très brièvement, en rafale, vous savez, à la toute fin de l'émission. Alors je suis heureuse que vous nous en parliez un petit peu plus. Présentez-nous ce livre Huguette.
Bien, alors Le Doute, ça se passe...
Le Doute, hein, c'est ça. Le nom de l'auteur, c'est...
Eska Tremaine.
D'accord, qui s'appelle T-R-E-M-A-Y-N-E. D'accord.
Je suppose que c'est Tremaine que ça se prononce. Je ne suis pas très bonne en anglais, donc j'ai présumé que...
Oui, oh ben, c'est pas moi qui pourrais vous aider, ma pauvre Huguette. Alors, Le Doute...
Alors, Le Doute, c'est ça se passe au début, on sait de suite que quelqu'un est déjà mort.
OK.
C'est deux sœurs jumelles.
Oui.
Qui font l'intrigue, dont une qui est décédée il y a un an. Et le couple, Angus et Sarah, ils ont eu un héritage. De la grand-mère de Angus. Donc, ils s'en vont vivre en Écosse, dans une petite île près de S-K-Y-E, Sky.
Sky, d'accord, oui.
Donc, ça commence là. Arrivent là. C'est supposément, le site devait être prêt, la maison devrait être prêt. Tout ça, c'est très beau. Au vu de Angus.
Oui, oui,
parce
oui.
Parce que la dame ne veut pas y aller.
Oh.
Elle a un doute. Elle a un doute vraiment parce qu'elle pense que elle a un pressentiment. Puis
qu'est-ce que je vais aller faire dans le fin fond de l'Écosse?
Oui, sur une petite île perdue.
Où il n'y a même pas de golf, j'imagine.
Non, il n'y a rien là. Il y a de l'eau seulement et une maison délabrée. Vraiment délabrée. Puis là, ils arrivent là, ils s'installent, mais ça prend du temps parce que ça prend un bateau. Ils n'ont rien, pas de bateau.
Ils improvisent.
Ils improvisent. Il faut qu'ils traversent pour aller faire l'épicerie, la moindre chose, ils doivent traverser.
Il n'y a rien de simple.
Non, il n'y a rien de simple. Il y a les grands vents se promènent et tout.
Donc là, ils partent à deux avec leur
fille
jumelle qui reste. C'est bien ça.
Oui, c'est en fait ça. Les autres, ils arrivent là. Et là, il y a des choses bizarres qui arrivent parce que Kirsty, la sœur vivante, commence à voir des choses. Des choses, des esprits. Elle va à l'école, puis les enfants, comment je veux dire, ils rient d'elle parce qu'elle parle devant un miroir, elle voit quelqu'un.
Oh! Réminiscence de la frangine, peut-être?
C'est en plein ça. Elle voit la frangine, mais tout ça se passe parce que la frangine, elle est toujours très, très présente dans la tête et dans l'esprit de Kirsty, ça. Donc, l'histoire se déroule dans ça. Les parents ne comprennent pas. Les élèves non plus, les profs non plus. Puis elle, elle est vraiment décontenancée parce que, bon, qui l'a tué? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que, qu'est-ce qui arrive?
Oui, parce qu'en plus, on sait qu'entre deux jumelles, hein, c'est un lien très fort. Hein?
Il peut y avoir de grandes rivalités entre deux jumelles. Et le doute persiste jusqu'à la fin.
Et il y a aussi un élément intéressant, je pense, c'est qu'il y a des fois, et si vous me le permettez, j'ai ici un court extrait qui va tout de suite annoncer un petit peu la couleur. C'est qu'il y a la mère aussi, là-dedans, qui commence à pas se sentir...
Hein, c'est oui, bien effectivement, ça. Effectivement, j'avais oublié de vous parler ça. Oui,
alors,
effectivement, oui.
Est-ce que vous voulez que je vous lise le petit extrait? Alors, c'est un extrait avec les personnages de la mère et de la fille qui restent. « Alors, dis-je enfin, qu'est-ce que t'en penses? Aller vivre sur une île, rien que nous trois, tu trouves pas ça formidable ?» Christy acquiesce, d'un léger mouvement de tête, baisse les yeux vers son livre, le referme, me dévisage de nouveau. « Maman, pourquoi tu m'appelles tout le temps Christy ?» Je ne réponds pas. Le silence me semble soudain assourdissant. « Excuse-moi, ma puce, tu disais ? Pourquoi tu m'appelles tout le temps Christy ?»« Maman, Christy est morte. » C'est Christy qui est morte. Moi, je suis Lydia. Oh!
C'est du fantastique ou y a du surnaturel, on dirait, non?
C'est Patrick Sonécal qui vous pose cette question.
Est-ce qu'il y a du surnaturel? On dirait qu'il y a du surnaturel là-dedans, non?
On dirait qu'il y en a, oui, effectivement, parce que bon, il y a une certaine maladie mentale qui se promène dans ça.
Oh.
Est-ce que c'est la mère qui a une légère déviance? Est-ce que c'est la jumelle vivante? On ne sait pas.
Oui, oui.
Ah, OK, oui, mais c'est ça.
J'ai vu un peu de fantastique dans ça aussi. Mm-hmm. Mais pas... C'est sûr que tout se renverse. Mm-hmm. Ça se détruit. En tout cas, on ne sait pas. Je ne vous dirai pas la fin.
Oui, en tout cas, ça doit être dans une ambiance écossaise comme ça, où, c'est très gris, hein, on s'entend, le ciel est bas, on l'imagine, la brume, tout ça. C'est un peu glauque. C'est un univers que vous aimez bien, vous, Patrick Sonécal.
L'Écosse, c'est la terre des fantômes. Hein. Il y a eu beaucoup de trucs qui s'est passé en Angleterre, en Écosse par rapport aux fantômes. Oui, tout à fait.
Huguette, je sais que ce n'était pas prévu. Sentez-vous à votre aise, mais je sais que vous nous aviez proposé à un moment donné de nous parler de fin, hein, du dernier livre de Patrick.
Mais je ne l'ai pas terminé.
Vous ne l'avez pas terminé? Ben, écoutez, je vais vous faire une confidence. Moi non plus, mais ce n'est pas grave, parce que du coup, et c'est ce que j'ai dit à Patrick Sonécal, ça nous permet, on est sûr comme ça, de ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Là,
parce que je ne vais pas rentrer à la fin encore, mais ça me fait plaisir, effectivement. Oui.
Mais pour l'instant, de ce que vous en avez lu, qu'est-ce que vous... Parce que je sais que vous l'aimez beaucoup, ce livre. Qu'est-ce que vous en retenez?
J'aime beaucoup l'auteur aussi, donc ça va.
C'est vrai? Vous en avez lu beaucoup de Patrick Sonécal?
Il y en a... Oui, j'ai lu... J'en ai lu assez, mais les premiers, je ne les ai pas lus encore.
Ah, OK, d'accord.
J'ai fait le chemin à l'envers.
Ben, c'est pas grave.
C'est marrant parce que...
Il n'y a pas d'ordre, d'ordre logique.
On a un technicien ici qui est Jean-Sébastien qui, lui, est complètement parti du début. Alors, voyez-vous, de toute façon, le principal, c'est que tout le monde se rejoigne.
C'est ça.
Et qu'on... Oui. Alors, fin, dont on va parler dans quelques minutes, entre autres, avec Patrick Sonécal. C'est quelque chose, hein, cette ambiance, cirque, ces gens tout nus sur la piste.
Oui. Moi, n'ayant jamais vu, je me disais que des cirques comme ça, c'est probablement pas courant. Ce n'est que dans l'imaginaire de l'auteur, c'est certain.
Oui.
En fait, il existe des spectacles comme ça, des fois underground, mais un cirque qui se veut un cirque ambulant, non, normalement, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Non, c'est ça. Ça se veut très, très festif et très... Hein, on s'entend. Et est-ce que vous connaissiez le personnage? Parce que vous avez un personnage récurrent, Hélène, dans Michel, hein, je crois.
Oui, ben une des personnes du cirque, Regina, en fait, c'est Michel Beaulieu qui est dans deux autres de mes romans.
Ouais. Michel Beaulieu, comme je n'ai pas tout lu.
Ah, alors je vous le dis, là.
Elle est dans 51-50 rue des Hommes et dans Alice. Voilà.
Alice, je ne l'ai pas lu encore.
Voilà,
51-50 des Hommes, ça fait Je l'ai vu à la télé, mais je ne l'ai pas vu.
Ben, c'est l'adolescente, en fait.
C'est ça.
Qui a vieilli,
c'est l'adolescente
qui a vieilli comme tout le monde.
Ah, ok.
Comme moi.
Okay. Ah, ah,
et qu'on retrouve dans ce livre-là.
J'aurais dû commencer à vous lire au début.
C'est pas grave. Vous allez reculer, vous allez tout comprendre, mais à l'envers. C'est pas grave.
Huguette, c'est toujours un grand, grand plaisir de vous parler. Vraiment, c'était un bon choix parce que je trouve que vous nous amenez, Patrick Sénécal, sur un plateau avec ce sujet de livre fantastique qui s'appelle donc Le Doute. Et d'ailleurs, je doute pas que Patrick Sénécal, vous alliez vous le chercher, ce bouquin-là.
Ça m'intéresse tout à fait,
oui. C'est sûr.
Je vous le dis, c'est très, très agréable à lire. C'est prenant parce que on essaie d'entrer dans la psychologie des personnages.
Puis on se demande ce qui est arrivé à cette petite fille, j'imagine. Oui. Est-ce que c'est vraiment celle qu'on pense qui est décédée? Et puis qu'est-ce qui est arrivé, évidemment?
Oui, on ne sait pas finalement qui est décédé au cours du livre. Donc,
un bon livre pour peut-être même pour les fêtes, pour lire au coin du feu, hein? Avec une bonne couverture sur les genoux.
Oui.
Puis comme ça se passe en Écosse, si vous avez un petit scotch, ça va être parfait. Quoi. Allez, Huguette, je vous souhaite une belle journée, puis je vous remercie encore une fois infiniment d'avoir partagé tout ça et de participer régulièrement à cette émission. C'est très apprécié.
Ne vous gênez pas si vous avez besoin de voix, je suis là.
Merci beaucoup, et on se reparlera sûrement pas d'ici la fin d'année, alors passez de joyeuses fêtes.
Vous de même.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Alors, Patrick Sénécal, voilà, c'est vraiment ce que je disais, la table est mise.
Mais oui.
Et comme je vous le disais tout à l'heure aussi, dans le couloir, tous les gens que j'ai reçus assez récemment, dont Catherine Perrin, tout ça, quand je leur ai dit que vous alliez venir, Catherine était tellement enthousiaste, elle m'a dit « Ah, tu vas voir, c'est un type charmant, puis il est drôle, puis il est sympathique, puis il est fantastique. »
Je l'avais payé.
D'accord. Mais moi, je me disais, du coup, la première question, elle est comme venue à moi, c'est... Êtes-vous plutôt Dr. Jekyll ou plutôt Mr. Hyde?
Ah, dans la vraie vie, si un Jekyll et un Hyde en moi, c'est l'écriture qui départage. Parce que dans la vraie vie, je ne suis pas quelqu'un qui change de personnalité, mais quand j'écris, oui, tout mon côté sombre, effectivement, est dans mes livres. Et je pense que c'est pour ça que dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui aime rigoler, qui aime avoir du plaisir, qui aime... qui est quelqu'un qui se prend pas la tête, tout ça. Je suis pas un angoissé. Ma blonde est psychologue, hein. Alors, elle est assez étonnée de voir à quel point je ne suis pas un angoissé. Quelqu'un d'excessif, oui, tout ça, mais angoissé, non, pas vraiment. Et elle est convaincue que, justement, mon côté noir, mes angoisses, je les projette dans mes livres, finalement.
Oui.
Ouais, donc, il y a peut-être un truc thérapeutique là-dedans.
Peut-être, parce que moi, je me disais, voyons, quel pourrait être le parcours d'un individu pour en arriver, d'une part, à être auteur, mais... surtout aussi à être auteur
de ce genre-là.
Ouais. C'est-à-dire, on s'entend, ce sont des livres, on est plus que dans le polar, on est presque dans le gore, parfois.
Oui, parfois du gore, parfois du surnaturel.
Parfois de l'angoisse, c'est ça, surnaturel.
Du roman noir, moi je résume ça en du roman noir. Je dirais que c'est toutes les facettes du roman noir, en fait.
Alors, je vais faire une psy de moi-même. Comment c'était votre enfance, mon petit Patrick Sénécal?
Eh bien, croyez-le ou non, mon enfance était tout à fait très, très normale. J'ai pas eu d'enfance malheureuse. Au contraire, j'ai eu des parents très aimants qui m'aiment encore, d'ailleurs, et qui sont... J'ai peut-être vraiment une ville, une petite ville tranquille. À l'école, ça allait bien. Alors, j'ai pas vraiment... Je peux pas dire que j'ai pris ça dans mon enfance. Mais en fait, comme j'avais une vie très, très belle, peut-être justement que j'allais découvrir des trucs plus sombres dans mes écrits. Parce que déjà, quand j'avais 11-12 ans, j'écrivais des histoires comme ça.
C'est ça, Vous aviez même écrit un petit truc de 50 pages, La Vengeance.
Oui, qu'on a publié une cinquantaine d'exemplaires au Cégep de Drummondville. C'est pas très bon, c'est un premier roman, évidemment, faut être indulgent. Mais oui, déjà, à cet âge-là, j'écrivais des trucs assez... de l'horreur, là, des fantômes, des esprits, des démons, des trucs
Et
comme
vos
ça.
Parents vous lisent?
Maintenant, oui. À l'époque, mon père me lisait, tu vois ça rigolo. Ma mère, elle ne me lisait pas, elle n'avait pas le temps. Hein? Une vraie femme de sa génération qui s'occupe de tout à la maison et qui n'a pas le temps. En plus, elle travaillait. Alors, mais aujourd'hui, ils me lisent tous les deux, ils sont très, très fiers. Et c'est très curieux parce que ma mère, normalement, ne lirait jamais ce genre de roman-là. Elle le fait parce que c'est son fils, évidemment. Sinon, elle dirait, c'est épouvantable d'écrire des affaires comme ça. Mais comme je suis son fils, la seule réaction qu'elle a quand elle lit mes romans, elle dit « Oh, tout ça a cru Patrick, hein? Et qu'il y a de l'imagination. » C'est sa réaction spontanée, ça me met toujours un peu, ça me fait toujours bien rire. Mais oui, ils me suivent, c'est vraiment des vrais, vrais fans.
Des fans, des fans de Patrick Sénécal. Et je me demandais, Bon, les scènes difficiles, parce qu'il y en a qui sont vraiment... Oui. Ben, pas dans le dernier, je trouve que on est plus dans le psychologique. Ouais. Mais c'est pas vrai que j'en ai pas lu un. J'ai lu Le Vide, j'ai lu quand même...
Ah, Le Vide, il y a des scènes très, très, très dures.
Il y a des scènes vraiment très difficiles. Je me dis, ces scènes-là, vous y pensez longtemps à l'avance? Est-ce que c'est quelque chose que vous cultivez, que vous développez? Je pourrais peut-être imaginer ça. Oula, est-ce que je vais trop loin?
C'est-à-dire que dans mon plan, moi, je fais toujours un plan dans mes romans. Je sais à quel moment telle personne va mourir ou tel moment il va y avoir de la violence. Bien, je la développe pas tout de suite. Je me laisse le plaisir ou la surprise de dire, bon, OK, là, lui, il doit mourir ou elle, doit mourir. Comment ça va arriver? Oui. Et je vais y penser peut-être une ou deux journées avant que cette scène-là arrive dans le roman. Mais pas des semaines et des mois à l'avance. Je sais qui va mourir et pourquoi, mais le moyen, je me laisse moi-même le plaisir de découvrir.
Au fil de la plume, même, parfois.
Oui, tout à fait. Oui, parce que ces scènes-là, souvent, pendant que j'écris, c'est bon, il y a un effet d'entraînement. Et en fait, c'est toujours même... Le danger, quand j'écris ces scènes-là, c'est de toujours en vouloir en mettre plus et d'en mettre trop. Parce que la violence, c'est facile d'en mettre beaucoup. Alors, quand je me revise, quand je fais mon deuxième geste, souvent, j'en enlève un peu. Pas pour des raisons de censure, mais pour des raisons de cohérence, pour des raisons de...
Faut que ça reste vraisemblable.
Faut que ça reste vraisemblable, pour pas tomber dans le grotesque. C'est très facile d'être dans le grotesque avec la violence. Alors, j'en enlève toujours un peu pour ça. Parce que la surenchère dans la violence, c'est un piège c'est facile de tomber dans ce genre de piège.
Et est-ce que, une fois qu'elles sont écrites, est-ce qu'elles vous hantent?
Non.
Pas du tout.
Pas du tout.
C'est écrit, c'est écrit.
Alors, moi, je suis très, très conscient que j'écris des romans, de la fiction. Je ne suis pas du tout le genre d'auteur qui va pleurer quand ses personnages meurent ou qui va... non, il y en a comme ça.
Hein. Heureusement.
Mais non, moi, je suis très, très détaché. Pendant que je l'écris, je suis attaché. J'essaie de m'imaginer comment le personnage devrait réagir. Mais je suis toujours conscient que je suis en train de faire de la broderie, que tout ça doit être efficace, qu'il faut que ce soit cohérent, qu'il faut, il faut que le rythme soit bon. Alors, quand j'ai terminé d'écrire, je peux y repenser pour des raisons de, bon, est-ce que j'ai bien fait ça? Mais d'être hanté par mes personnages, d'être hanté par cet univers-là, absolument pas.
Non. Non, quand même, je suis peut-être allé un peu loin, là. La mare de sang était bien. C'était bien.
Oui, mais si j'y pense comme ça, ça va être pour des raisons justement romanesques, raisons éthiques. Ça va être vraiment pour... C'est l'artisan qui est au travail et qui se demande, est-ce que j'ai bien sculpté mon truc, là? C'est vraiment... C'est très technique. C'est ça, c'est de la technique.
Est-ce que vous vous surprenez vous-même?
Oui, des fois. ça arrive que j'écris des scènes que je me dis mon Dieu, comment c'est que j'ai pensé à une affaire de même? Et ça me fait rire en général. Quand je m'étonne, je suis pas inquiet, je trouve ça drôle. Vous savez, la part des auteurs que je connais qui écrivent de l'horreur ou des romans noirs, quand ils arrivent à leur scène et qu'ils trouvent des bonnes idées de scènes violentes, ils sont très amusés. Ça les amuse beaucoup. Ils trouvent ça très drôle. C'est peut-être une défense, c'est peut-être mais ça a beaucoup. Et quand on s'en parle entre nous, hey, moi j'ai pensé à une idée, là, puis on se raconte ça, on trouve ça très rigolo. En général. C'est très rare qu'on se trouve inquiétant entre nous. On se trouve très drôle, en fait.
Et est-ce que vous pourriez écrire une histoire d'amour?
Je sais pas. Je crois pas. Je crois pas parce que... En fait, on sait jamais ce qu'on va écrire. J'ai déjà écrit des trucs que j'aurais jamais cru écrire un jour. J'ai écrit deux romans pour enfants alors que j'étais convaincu que je serais incapable de faire ça. J'ai écrit aussi un roman qui s'appelle 15 minutes qui n'a rien à voir avec l'horreur, où il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de sang. C'est vraiment différent. Mais une histoire d'amour, purement une histoire d'amour, là, dont l'intrigue serait vraiment une romance... C'est pas facile d'écrire une histoire d'amour intéressante parce que l'amour, c'est quelque chose qui est le fun à vivre, mais c'est pas quelque chose qui est nécessairement le fun à raconter.
Et pourtant.
Et il y en a eu des très bons, mais il y en a beaucoup dans. Si je peux me permettre, il y a beaucoup d'histoires d'amour emmerdantes, à mon avis. Oui. Mais on peut pas tous écrire Cyrano de Bergerac. Hein. C'est le sommet de l'histoire d'amour. Moi, cette histoire-là me fait pleurer à chaque fois que je la lis. Mais parce que pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait un drame. Il faut qu'il se passe quelque chose. S'il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'histoire. Hein.
Ouais, sinon c'est clair.
Alors, un drame dans une histoire d'amour, sans tomber dans le cliché, c'est possible. Mais je ne suis pas sûr que j'aurais ce talent-là. D'écrire une bonne histoire d'amour, c'est pas facile. Et je pense pas que mon imaginaire se tournerait assez volontiers dans cette direction-là. Mais il faut jamais dire jamais. Hein.
Patrick Sonnecal, acceptez-vous de faire un petit, enfin de vous livrer un espèce de petit jeu parce que je pense que quasiment tous vos romans ont été et livres, en tout cas vos séries ont été enregistrées.
Ben oui, je serais flatté de ça.
Ben oui, et alors je me disais pour les gens qui, comme moi, n'ont sûrement pas tout lu, j'ai envie qu'on leur donne l'envie d'en lire le plus possible. Alors je vais vous citer quelques titres.
Oui.
Mais le jeu, c'est que je vais vous donner 15 secondes à peu près
pour
nous dire l'essentiel.
D'accord.
Pourquoi est-ce qu'on devrait aller chercher
ça? Speed dating littéraire.
Yes!
C'est ça.
Alors, Alice, on peut dire en dehors des 15 quand même secondes, que on peut dire un petit peu ce que c'est. Je veux dire que c'est le côté trash de d'Alice au pays des merveilles.
Ah ben c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment c'est le meilleur pitch de vente de ce roman-là. C'est, c'est une version trash d'Alice au pays des merveilles. Donc une fille de 18 ans qui veut plus habiter chez ses parents et qui va découvrir un quartier parallèle à Montréal où il se passe de très drôles de choses. Mais en même temps, c'est une adolescente qui devient adulte. C'est un peu ça l'idée.
Contre Dieu.
Contre Dieu, c'est une chute dans le désespoir. C'est un homme qui a tout perdu, sa femme et ses enfants, dans un accident d'auto et qui, par désespoir, va décider que la vie n'a pas de sens et qui va donc défier le hasard tout le temps en se disant que de toute façon, que le pire arrive ou non, nous n'avons le contrôle sur rien. Donc, c'est une espèce de lent suicide inconscient.
Hell.com.
Hell.com, c'est, oui, ça, c'est considéré comme mon plus dur par beaucoup de gens. C'est un roman, c'est un site illégal qui s'appelle Hell.com. Ça coûte 500 000 $ par année à être membre, donc c'est pas pour tout le monde. Et une fois que tu es membre de ce site, tout est possible. Esclave sexuel, drogue, tueur à gages, torture. C'est vraiment épouvantable. Mais en même temps, il y a une rédemption dans ce roman-là. Alors voilà.
La série Malface, est-ce que c'est considéré pour, la, pour les jeunes, ça?
Ben, c'est-à-dire que non, moi, aucun de mes romans est considéré pour les jeunes, à part mes deux romans pour enfants, mais beaucoup d'ados me lisent quand même, parce que moi, ado, je lisais Stephen King, par exemple, ce qui est assez normal. Mais ça se passe dans un cégep, c'est pour ça qu'il y en a qui croient que c'est pour jeunes, mais c'est assez trash aussi. Mm-hmm. Et c'est de l'humour noir. Alors, c'est de l'horreur, il y a du sang, mais c'est drôle aussi. Alors, les gens qui ont peur de me lire parce qu'ils ont peur d'avoir peur, ben Malface, c'est peut-être un côté plus humoristique, même s'il y a des meurtres en masse.
Voilà. Merci. Le passager.
Le passager, c'est mon plus soft. Lui, c'est une bonne introduction. C'est,
notez bien ça.
Oui,
le
bonne
passager.
Introduction à mon genre. Alors, c'est un gars qui embarque un gars qui fait du pouce deux fois par semaine. Il l'embarque avec lui. Il se rend compte qu'il a peut-être embarqué un psychopathe finalement. Alors, il y a une relation malsaine qui se développe entre les deux.
Mon Dieu, et c'est ce qu'il y a de plus soft.
oui, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de sang.
Non, c'est
peu,
ça,
mais
oui, d'accord. Alors, 7 comme 7 heures, ça, c'en est un pour la jeunesse.
Oui,
hein?
ça, c'est un de mes deux romans pour enfants. Alors, ça commence que Nat, le petit garçon de 8 ans, se fait kidnapper par le Père Noël. Le Père Noël est devenu méchant. La fée des dents est devenue méchante et le lapin de Pâques aussi. On se demande pourquoi. Et c'est peut-être la faute du bonhomme 7 heures qui, finalement, ne serait pas une légende. Voilà.
Excellent. Il y a aussi... tenez, puisqu'on est avec les enfants, il y en a
suite.
Un autre.
Oui.
Oui, c'est ça. Comment
Madame
ça s'appelle?
Moinam.
Voilà, c'est ça.
Madame
exactement.
Madame Moinam, c'est un professeur qui est remplacé le professeur habituel. Oui. Et on se rend compte que c'est peut-être une sorcière qui est obsédée par leur performance et qui refuse que ses étudiants fassent la moindre erreur.
Il fait bien ça en 15 secondes, hein, quand même. Les 7 jours du Talion...
Oui, histoire...
On connaît un peu plus.
Oui, il y a eu le film, évidemment. Alors, c'est un père qui décide de se venger. Il capture l'assassin de sa fille. Il décide de le torturer pendant une semaine pour se venger. Mm. Mais il se rend compte que, finalement, tout ça n'a peut-être pas de sens. Donc, c'est une réflexion aussi sur l'utilité de la vengeance ou sa non-utilité, finalement.
Sur le seuil.
Sur le seuil, c'est du fantastique, c'est du surnaturel. C'est un psychiatre qui fait une enquête sur un de ses patients, un écrivain célèbre qui s'est coupé les 10 doigts et qui ne dit plus un mot. Et il essaie de découvrir pourquoi il s'est automutilé comme ça. Il va faire beaucoup d'enquêtes sur son passé. Il va découvrir des choses incroyables et à peine crédibles sur le passé de cet écrivain-là.
Oniria.
Oniria, ça, c'est une espèce de... c'est un peu un hommage personnel au film d'horreur de série B. Ça se passe en une nuit dans une maison. 4 gars s'évadent de prison. Ils vont se cacher dans une maison. Ils n'auraient jamais dû choisir cette maison-là. Ça ne dure qu'une nuit et très peu vont survivre.
Alors, 51-50, Rue des Ormes aussi, bien connu.
Oui, c'est mon premier, en fait. C'est mon premier
c'est
roman.
Ça.
C'est un jeune qui est kidnappé par une famille. Il se rend compte que le père est un psychopathe qui est maniaque d'échecs et qui a un sens de la justice très, très, très précis. Et il dit au jeune, tu vas pouvoir sortir d'ici le jour où tu vas me battre aux échecs, mais pas avant. Voilà.
Et puis le vide dont nous parlions un petit peu plus tôt.
Oui, le vide, ça c'est assez complexe, mais je dirais que c'est 3 histoires qui vont se rencontrer. Un milliardaire qui fait une télé-réalité complètement idiote, mais qui a un immense succès. Un psychologue qui cherche l'excitation dans les trucs extrêmes. Et un policier qui fait une enquête sur un triple meurtre. Ces 3 histoires-là vont se regrouper et donner une fin assez spectaculaire. Merci.
Et il y a Fin, évidemment, mais Fin, F-A-I-M.
Oui, ça, c'est mon avant-dernier. Oui.
Ça, c'est donc l'avant-dernier, mais c'est celui qui vient de sortir en version audio adaptée.
Oui.
Alors, lui, j'aimerais bien qu'on prenne quelques minutes pour le présenter. Nous sommes dans une petite ville américaine.
Non.
Non?
Ça se passe au Québec.
Québec?
Oui, c'est proche. Tous mes livres, ça passe au Québec, en fait. C'est pas très loin de Sorel. C'est sur le bord
de
l'Ayamarca.
Ah oui, c'est vrai. Mais oui, évidemment.
Mais je l'ai inventé.
Mais oui. Cap-Pizzi,
c'est
ça.
Le nom de la ville.
Et puis, arrive un cirque.
Un cirque ambulant.
Ouais. Mais pas n'importe quel cirque.
Non, c'est un cirque, en fait... qui fait un spectacle pour adultes seulement et qui pousse les gens, en fait, à à laisser libre cours à leurs pulsions intérieures, parce qu'ils prennent pour acquis que tout le monde a des pulsions qu'on essaie un peu, évidemment, de contenir. Et ce cirque-là dit aux gens, laissez aller vos pulsions, et ça va avoir un effet sur certaines personnes du village jusqu'au point qu'il va y avoir un meurtre, alors qu'il n'y avait jamais eu de meurtre depuis 10 ou 11 ans dans cette ville-là. Alors, et le policier qui fait une enquête, lui-même a des pulsions, et d'enquêter sur ce cirque-là, ça vient réveiller des pulsions qu'il n'aime pas tellement.
Puis en même temps, il y a l'histoire de ce couple.
Oui, le policier, c'est ça.
Le policier qui est marié avec une vétérinaire. Ouais. Bon, deux ados, voilà. Qui sont très, très ados.
Bah, oui.
Puis, bon, ce couple-là sombre un petit peu dans une forme d'ennui,
dans le
quotidien. Voilà. Donc, en cela, c'est un livre beaucoup plus axé sur le psycho aussi et sur la vie au quotidien, en fait.
Ben, c'est l'horreur du quotidien, en fait.
C'est l'horreur du quotidien.
J'avais parlé de beaucoup de choses, de l'horreur, mais là, c'est l'horreur du quotidien. En fait, à quel point que le quotidien peut devenir horrifique. Alors, c'est une réflexion, je pense. J'ai 50 ans, j'ai 49 ans, mais j'ai plein de gens autour de moi qui ont mon âge. Et on parle souvent du quotidien. Puis est-ce qu'on a été jusqu'au bout de nos rêves? Est-ce qu'on est devenu ce qu'on ne voulait pas devenir? Tu sais, le genre de réflexion qu'on peut avoir à 50 ans. Et je pense que j'avais besoin d'écrire là-dessus, de montrer qu'est-ce qui peut arriver de pire quand on arrive à cet âge-là et qu'on est devenu le contraire de ce qu'on s'était dit qu'on deviendrait. Et ça arrive souvent. Et c'est un peu ce qui arrive à ce couple-là et aux gens de plusieurs personnes de cette petite ville-là qui finalement sont frustrées de plein de trucs. Ouais.
Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a plusieurs personnes qui vous ont posé la question, qui vous ont dit, est-ce qu'il y a beaucoup de votre vie là-dedans?
Mes romans sont tellement extrêmes que il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des questions qu'on se pose tout le temps. C'est des questions. Moi, je suis chanceux parce que, bon, je vis de ma plume et tout ça, mais on se pose quand même ces questions-là. Bon, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Est-ce que je suis heureux avec ma femme, avec mes enfants? Alors oui, je me suis demandé jusqu'où ça pourrait aller quand quelqu'un est complètement malheureux. Et il y a tellement de gens malheureux qui n'osent pas se dire que je pense une réflexion que bien des gens de mon âge peuvent comprendre, en fait. Je pense que les ados plus jeunes, les 17-18 ans qui me lisent ou les 20 ans qui me lisent, je pense que le thème de fin peut peut-être être un peu moins proche d'eux. Oui. Alors que je pense que cela, c'est vraiment écrit par un écrivain. J'aurais pas pu écrire ça il y a 20 ans, je pense.
Non, c'est ça. Ouais. Alors, fin pour ces pulsions, justement, que vous appelez ces fins, là, finalement.
Exactement.
F-A-I-M-S.
Exact,
d'accord.
C'est ça.
Il nous reste plus qu'une minute et demie, ça passe vite.
Ça passe très vite.
En seconde partie, Patrick Sonnecal, je vais me faire le plaisir de lire un extrait. Je vais faire semblant que je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure. Vous savez, c'est l'extrait, donc c'est la première fois que la plupart de la ville, ou en tout cas pas mal de personnalités de la ville, se retrouvent au cirque.
Oui, la première représentation.
Voilà, c'est la première, et je trouve que ça donne une bonne idée de ce qui peut arriver derrière. Quoi.
Exactement.
Et puis, en une minute, vous disiez que, évidemment, quand vous étiez adolescent, vous êtes nourri beaucoup de Stephen King.
Stephen King.
D'autres
Lovecraft,
auteurs.
Edgar Allan Poe, Lovecraft, bon, tous ces auteurs fantastiques, aussi Jean Rey, Thomas Owen, qui sont moins connus, mais qui sont très, très... Oui, j'ai lu tout ça. J'ai fait mes écoles.
Exactement.
Ouais.
Et c'est grâce à eux que vous êtes devenu le Patrick Sonnecal que vous êtes maintenant.
C'est de leur faute.
Patrick Sonnecal, je vous remercie vraiment beaucoup. On a fait le tour. Je suis contente qu'on ait fait
aussi,
le tour comme ça.
Bien content d'être venu ici.
Bon, c'est parfait, Patrick. Patrick Sonnecal, donc ruez-vous sur tous ces livres qui sont disponibles via le SQLA, le service adapté du livre adapté, et via le CAEB aussi, sur l'ensemble du Canada. Et puis restez des nôtres parce que l'émission n'est pas terminée. Oh, on va tomber dans les gorlots de Noël, ce sera différent. Des livres pleins les oreilles, une seconde partie qui s'ouvre avec une chanson d'Yves Duteil, juste avant que je vous lise un extrait de Fin de Patrick Sonnecal.
Un petit cirque a installé sa toile au cœur de la cité. Le magicien, comme un maître de bal, commence à répéter. Lance la terre au milieu des étoiles, dresse le chapiteau, trouve un soleil en fouillant dans ses malles, ajuste son chapeau. J'ai l'honneur, l'avantage de vous présenter quelques scènes à peine imaginées. Les décors, les costumes sont un peu passés, mais ça pourrait bien vous arriver. Des bateaux venus de Chine nous ont apporté quelques tonneaux d'encre et du papier. Les Pierrot, les Colombines et même un Arlequin sont venus demain mais jouent pour rien. Un orage a prêté ses plus beaux éclairs pour illuminer la ville entière. Pour un bal sans égal dans la nuit des temps où sont invités les habitants. Si le temps nous accompagne comme il l'a promis, nous verrons les clés du paradis, rapportées en taxi de la galaxie à 1000 années-lumière d'ici. Aurore boréale, décor idéal pour une aquarelle originale, jaillira du chapeau de Monsieur Loyal au moment le plus sentimental. Tous les anges et Lucifer, prévus au dessert, apportent un gâteau d'anniversaire qu'on verra de la terre comme une étincelle arrivée de l'autre bout du ciel. Carnaval sans rival, la réalité, le hasard et la fatalité nous préparent dans le noir une éternité qu'il vaut mieux ne pas imaginer. J'ai l'honneur, l'avantage de vous inviter dans un univers à mon idée. Rien n'est vrai, rien n'est faux, tout est inventé. Et si vous voulez bien m'accompagner. Fermer ses lumières, plier son chapiteau. Il a laissé ses images en arrière, dans nos cœurs bien au chaud. La caravane a repris le chemin des rêves et des chagrins. Tout est rangé dans les mâles en rotin du petit magicien.
La seule lumière provient d'un brasier au centre de la piste. Un grand auto-da-fé au cœur duquel on devine deux silhouettes noircies, côte à côte, immobiles et le poing levé en l'air, deux pantins qui brûlent au son d'un long accord plaqué, apocalyptique et tragique, qui s'étire sans fin, en distorsion malsaine. Pendant ce temps, la voix grave et puissante surgit des haut-parleurs. 2013, Katpidi. Catherine Janel se fait violer par son patron. Herbert Chicoine. 2011, Pierre Ville. Frédéric Étier met le feu au bureau où il travaille depuis 20 ans. 2009, Katpidi. Laurent Morin, enseignant à la maternelle, est condamné pour pédophilie. Médusé, Joël écoute cette nomenclature des drames survenus à Katpidi et dans les environs au cours des dernières années, les yeux rivés sur les flammes au milieu de la piste. Accompagnée par la distorsion musicale, la voix poursuit, imperturbable. 2012, Katpidi. Roxane Blais tue accidentellement son bébé de 8 mois dans un accès de colère. 2011, Yamaska. Jean-Claude Johnson se suicide dans son sous-sol après que sa famille eut découvert son homosexualité. 2010, Katpidi. Gabriel Letourneau est arrêté pour avoir publié des messages haineux et racistes sur Internet. Dans l'assistance, il y a évidemment des proches de certains de ces individus et Joël lui-même en connaissait un ou deux. Avec un goût amer dans la bouche, il observe en silence les deux mannequins qui sont maintenant presque totalement calcinés. 2009, Sorel Tracy, Muriel Lavigne assassine son amant. 2005, Katpidi, Hugo Rochelot tue sa femme et sa fille. Tout le monde est au courant. De l'histoire de Rochelot, c'est le dernier meurtre qui a eu lieu à Katpidi 9 ans plus tôt. Tout à coup, alors que les restes des deux pantins effondrés ne jettent plus que quelques lueurs, une vidéo est projetée sur la grande toile blanche. Il s'agit d'une sorte de lent panoramique sur les gradins filmés au même moment. On y voit les spectateurs défiler, 3 rangées à la fois. Tous sont déconcertés, secoués. Joël et ses amis apparaissent aussi et le policier est surpris de son air totalement effaré. Et tandis que la caméra invisible poursuit son travelling, un immense point d'interrogation se dessine en surimpression sur les visages bouleversés. L'écran devient noir, la musique disparaît et il n'y a plus que les ténèbres à peine trouées par l'amas de braise sur la piste. Dans l'obscurité, Aucun applaudissement ne retentit, aucun rire, aucune invective. Joël, tendu à l'extrême, entend Martine qui respire très fort à ses côtés. Puis les lumières se rallument partout sous le chapiteau, rassurantes. La piste est totalement vide, sans accessoires, et une ritournelle traditionnelle de cirque joue maintenant en sourdine. Les secondes s'étirent. Aucun membre de la troupe n'apparaît pour saluer. Personne. Alors voilà, c'était un extrait de Fin, F-A-I-M-S, de Patrick Senecal que je recevais en première partie de cette émission. Oh, bientôt Noël. Et oui, on se rapproche. Eh bien tiens, puisqu'on se rapproche, parlons-en donc de Noël.
Dites, si c'était vrai, s'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable, dites, si c'était vrai, si les rois mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin, pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens, dites, si c'était vrai, si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit, Luc, Matthieu et les deux autres, dites, si c'était vrai, si c'était vrai le coup des noces de Cana et le coup de Lazare, dites, si c'était vrai, si c'était vrai ce qu'ils racontent les petits enfants le soir, avant d'aller dormir, vous savez bien, quand ils disent notre père, quand ils disent notre mère. Si c'était vrai tout cela, je dirais oui, ou sûrement je dirais oui, parce que c'est tellement beau tout cela, quand on croit que c'est vrai.
Bonjour Gérard.
Oui, que de souvenirs.
Ah oui, vous l'avez rencontré Jacques Brel, vous?
Oui, je l'ai rencontré. J'ai soupé avec Tom, Mais ce qui m'avait impressionné, je le dis vite, là, ce qui m'avait impressionné, j'ai 21 ans, hein? Je suis à l'Université de Sherbrooke, et je m'occupe des spectacles qui ont lieu à la salle du Grand Séminaire. Et dans l'après-midi, où il va jouer le soir, je m'en vais là vers 4 heures, il n'y a personne, j'entre, et j'entends Brel qui chante « Quand on n'a que l'amour qui pratique ça », alors que moi, je savais tous les mots de la chanson.
Ah.
C'est là que j'ai compris que c'était le professionnalisme.
Ah oui, hein?
Et quand tu as 20 ans, 21 ans,
oui, oui,
t'as
oui.
pas d'idée. Alors oui. là, c'était oui. pour moi, j'ai été chanceux parce que les trois, Brel, Brassens et
Ferré.
Pardon?
Et Ferré?
Oui.
Léo Ferré?
Oui, et j'ai vu Belle Brassens, puis l'autre...
C'est pas Béco?
Béco. Ah, voilà. Oui, monsieur, 100 000 votes.
D'accord. Bon.
Ouais, mais il est mort jeune, ce pauvre Brel.
Ben oui, ben oui, ben oui. Alors, avant qu'on parle de livres oui. de Noël, vous vouliez nous parler d'un livre sur Brel qui est disponible...
Oui, vous avez lu un livre qui est disponible de Olivier Todd, T-O-D-D.
Mm-hmm.
C'est toujours tout est disponible au SQLA. Hein?
D'accord.
C'est Jacques Brel, une vie qui a vécu de 1929 à 1978. Et c'est 17 ans, mais c'est intéressant, je vous le dis.
Oui.
C'est-à-dire que c'est pas... des fois, des biographies, moi, je suis pas fort là-dessus.
OK.
Mais ça, il y a de la vie et peut-être aussi parce que on me semble qu'on reconnaît des chansons.
Ah oui, hein? Oui.
Oui, on reconnaît l'individu. En tout cas, c'est à lire. Mais j'ai fouiné aussi, madame, pour essayer de trouver quelques livres sur Noël.
Ah, ben oui, évidemment, ça s'impose.
Ça approche. Puis quand on est plus vieux, nous autres, c'est notre cas, ma femme et moi, on n'est pas toujours très occupé. On va être invité, mais on a des temps un peu plus morts
oui.
dans les fêtes que quand on avait 25, 30 ou 40 ans avec les enfants.
Ben oui, parce que là, c'était vous qui étiez au chaudron.
Parce que ce que j'ai trouvé, c'est il y a un beau conte qui s'appelle L'Arbre de joie, d'Alain Bergeron. C'est un beau conte qui peut être raconté aux enfants et qui peut être lu facilement. Ça se lit très bien. Et c'est deux jeunes enfants qui sont pauvres mais qui espèrent recevoir un cadeau à Noël et leur rêve va se réaliser grâce à l'Arbre de joie.
Ah.
C'est pas plus long, mais c'est un très, très beau conte. Il y a aussi un chant de Noël.
Oui.
C'est en prose. Mais c'est pas signé par n'importe qui, c'est signé par Charles Dickens.
Ah ben, quand même,
quand
oui.
on parle de Charles Dickens, on parle d'un auteur un peu connu.
Oui, vous avez raison.
Il écrit bien aussi.
Oui, 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 quand même. Il avait un petit talent, oui.
Oui, oui, il avait un peu de talent, oui. C'est merveilleux, c'est très, très bien.
OK.
J'ai tombé dans mes affaires à moi, parce que c'est toujours pareil. Je lis tellement de romans policiers. Je vous offre à nos gens La croisière de Noël de Mary Egan Clark.
La croisière de Noël.
Elle et sa fille Carole, oui, c'est la croisière de Noël.
Mm-hmm.
Et c'est écrit par Mary Egan et sa fille Carole. Et ça, c'est une espèce de voyage, mais je vous en dis pas plus long. C'est un voyage qui est surprenant, oui.
J'imagine qu'on est sur un bateau de croisière.
Oui, 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 mais c'est un voyage très surprenant.
Il va y avoir des meurtres?
Oui, 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 peut-être. On ne dira pas, hein, on ne contera pas l'histoire.
Mais ce n'est pas
un voyage facile. Mais c'est intéressant pareil. C'est la croisière. Et puis, j'avais une autre aussi de dernière nouvelle du Père Noël de Jean-Louis U. H-U-E.
D'accord.
C'est un petit racontage qui est intéressant. De toute façon, ce que je suggère à nos lecteurs, s'ils veulent en avoir un peu plus, ils ont simplement allé dans l'outil de recherche du SPLA et changer, au lieu de mettre titre, mettre sujet.
C'est ça.
Et on met Noël, même pas obligé d'avoir l'accent.
Non, c'est vrai.
On n'est pas obligé d'avoir l'accent grand,
absolument.
Et on pèse, et là, on va avoir une liste de livres disponibles qu'on peut aller chercher facilement. Là,
exactement.
Avant ça, on a mis qu'on peut les recevoir, qu'on peut aller même les télécharger ou les recevoir.
Oui, alors je vous remercie de le rappeler.
Ça va occuper nos gens et je leur souhaite à tous. Mais on va tous se revoir avant les fêtes ou on se verra pas?
Non, ça va être après maintenant.
Je souhaite à tout le monde un beau joyeux Noël, une bonne année et surtout beaucoup, beaucoup de santé et d'amour.
Merci, c'est
exactement.
Moi aussi, je vous embrasse et puis passez de très belles fêtes en famille.
Merci.
Merci beaucoup. Au revoir, Gérard.
Au revoir.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore, faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough.
Ça ne vous dérange pas, je me suis fait plaisir. Mais je suis convaincue que j'ai fait plaisir aussi à beaucoup d'entre vous en mettant cette version de Tony Bennett de Have Yourself a Merry Little Christmas. Oui, bien sûr, c'est en anglais. Et je l'ai fait aussi un petit peu exprès parce que ça m'amène vers la bande-annonce, non pas pour la semaine prochaine, parce que là, nous allons rentrer en période de reprise, mais ça m'amène à la première émission du mois de janvier, alors que nous accueillerons Marc Cassivi. Marc Cassivi, qui a signé un tout petit livre, mais ma foi, très intense, et qui s'appelle « Mauvaise langue ». Alors, on nous dit en quatrième de couverture ceci. Mauvaise langue, les chevaliers de l'apocalypse linguistique s'imaginent que le français a envahi, le franglais a envahi les rues de Montréal, rendant la métropole incompréhensible, invivable et infréquentable. Pour le commun des unilingues francophones, à en croire leur discours alarmiste, ce dialecte rébarbatif s'est imposé comme langue commune d'une génération insouciante de Québécois. Ces monomaniaques du français sont unis dans leur adoration fantasmée de la France et leur détestation obsessive de l'anglais, langue du conquérant britannique, de l'envahisseur culturel américain et de l'oppresseur politique canadien. Selon eux, le péril linguistique est à nos portes, alors ce court manifeste se veut une réponse à l'hystérie de ces curés aux oreilles écorchées par le chiac de Lisa Leblanc et le joual des personnages de Xavier Dolan. Pour le chroniqueur Marc Cassivi, qui a grandi dans un milieu anglophone, il est grand temps que l'on renvoie notre rapport souvent malsain à la langue anglaise. Le Québécois est maître chez lui, ainsi que l'avait souhaité Jean Lesage. Ce n'est pas le refrain en franglais d'une chanson des Dead Hobbies qui changera quoi que ce soit. J'ai un très très court extrait ici. « Je n'apprendrai rien à personne », écrit Marc Cassivi. Ce n'est pas en s'empêchant d'apprendre correctement une autre langue et en se refusant précisément à l'apprentissage de l'anglais que l'on assurera collectivement d'une quelconque façon la survie du français. Je le croyais à 18 ans, je le crois toujours. Le déni de l'autre n'est pas un prérequis à l'affirmation de soi. On dirait les prédications d'un manuel de croissance personnelle, écrit encore M. Cassivi. Les linguistes s'entendent d'ailleurs pour dire que l'on défend mieux sa langue lorsqu'on en parle une autre. La preuve étant, selon le linguiste Alain Rey, le père du petit Robert et auteur du dictionnaire historique de la langue française, que ce sont les traducteurs qui utilisent le moins d'anglicisme. Nous parlerons donc de franglais avec M. Cassivi lors de la toute première émission du mois de janvier 2017. Ce sont les titres en rafale et j'ai pensé aussi que d'autres titres sur le sujet de Noël seraient les bienvenus pour cette dernière émission originale de l'année 2016. Puisque à partir de cette semaine, en fait, pas cette semaine, mais à partir du 23 décembre, si je ne m'abuse, on vous présentera des reprises de cette émission. C'est le 22, pardon. On vous présentera des reprises de l'émission « Des livres pleins les oreilles ». Alors, j'en ai ici, j'ai un livre pour vous qui me tient très à cœur parce qu'il est signé Jacques Pasquet. Jacques Pasquet qui a été déjà bénévole ici chez Vues et Voix, mais qui est aussi un auteur. Il a écrit « Le Père Noël démissionne ». Père Noël n'est pas content, mais pas du tout content. Après sa grande distribution de cadeaux, savez-vous ce qu'il a reçu chez lui au Pôle Nord ? Des plaintes. Beaucoup de plaintes. Des enfants n'ont pas eu les cadeaux qu'ils voulaient, d'autres n'en ont pas reçu suffisamment. Il y a même des parents mécontents et comble du malheur. Un avocat le convoque, même en justice. Eh bien, trop, c'est trop. Père Noël en a assez. Qu'y a-t-il à faire de toute cette ingratitude ? Il démissionne. Mais voilà, désormais Père Noël bien grognon à la maison. Alors même les biscuits, les chocolats chauds et l'omelette aux asperges de Mère Noël ne peuvent plus lui rendre son sourire. Et Père Noël ne va pas bien. Alors un matin, il part. Il part pour se changer les idées, mais aussi pour se venger un petit peu. Si vous aimez les polars, ne manquez pas ce Georges Simenon et ce Maigret. Un Noël de Maigret. Il a été écrit en 1950. Un matin de Noël, le commissaire Maigret reçoit à son domicile la visite de deux de ses voisines du boulevard Richard Lenoir, Mademoiselle Doncoeur et une vieille fille, et Madame, qui est une vieille fille, et Madame Martin. La petite fille Colette, la fille de cette dernière, malade et alitée, a reçu la visite d'un homme déguisé en Père Noël. L'homme lui a donné une poupée. Et puis il a soulevé une lame du plancher de la chambre de l'enfant. Et lors de l'enquête, intrigué, Maigret va interroger la petite fille Colette, dont il apprend qu'elle est en réalité la nièce de Lorraine et de Jean Martin, ce dernier actuellement éloigné de Paris par son métier. Depuis 3 ans, Colette vit sous leur toit, son père, Paul Martin, ayant sombré dans l'alcoolisme après la mort de sa femme, dont il est moralement responsable. Et de plus, Maigret est intrigué par le comportement de Lorraine, qui, sous prétexte d'achat à effectuer, s'absente une bonne partie de la matinée. Alors désireux d'éclaircir ce mystère, Maigret dirige l'enquête depuis son appartement, usant largement du téléphone et de ses inspecteurs, Lucas et Torrance. Il apprendra qu'avant son mariage, il y a 5 ans, Lorraine avait été la maîtresse de son patron, Lorilleux, commerçant louche, qui n'avait pas hésité à assassiner et à voler un de ses riches clients pour pouvoir partir avec elle. Alors un broglio policier, évidemment, que ce Maigret, un Noël de Maigret de Georges Simenon, tel qu'il nous était présenté par un lecteur du site de Babelio. Mortel Noël, c'est un livre jeunesse et c'est signé Sylvie Brien. Panique au pensionnat, les amis. En ce froid Noël 1920, la sœur économe a été attaquée dans son sommeil par un fantôme. Canular, hallucination, tentative d'assassinat. L'élève Vipérine Maltais mène l'enquête, bien décidée à découvrir ce que chacun s'efforce de cacher. Mais attention, Vipérine, les Noëls sont parfois mortels à Montréal. Une héroïne pleine de charme et de malice dans l'ambiance mystérieuse d'un pensionnat québécois. Suspense et humour garantis. « Joyeux Noël d'Alexandre Jardin. Après les révélations sulfureuses sur sa famille et spécialement sur son grand-père, Jean Jardin, directeur de cabinet de Pierre Laval, qui faisait l'objet d'un encensement familial mais que son petit-fils a osé démasquer dans « Des gens très bien » publié en 2011, l'auteur nous revient avec l'histoire d'une autre lignée, celle de Norma Discredapple, qui, encouragée par l'initiative jardinesque, lui confie lors d'une rencontre dans une librairie nantaise sa saga familiale personnelle. C'est l'histoire d'un clan turbulent nommé Discredapple, impensable en breton, sur plusieurs générations, qui s'est installé sur une île bretonne depuis le 19e siècle, mais qui est l'héritière d'une banque suisse. Un tel contexte ne pouvait échapper à la sagacité de notre auteur, familier des extravagants de tout poil. Il sera donc le témoin et le scribe de cette aventure aussi rocambolesque que fantasque. Et enfin, une part de ciel de Claudie Gallet, de retour pour quelques semaines dans sa vallée natale qui s'enfonce dans l'hiver. Une femme redécouvre les non-dits du lien familial et la part d'absolu que chacun peut mettre en partage. Un roman de l'attente et des possibilités, illuminé par la plume intense et intime de l'auteur des Déferlantes, peut-on lire sur Babelio. Alors voilà, ainsi s'achève cette dernière émission de l'année 2016 des livres pleins les oreilles. Et bien sûr, on se retrouve dès janvier 2017. Je voudrais remercier Huguette Roussel, Gérard Saint-Denis et Patrick Sonécal, mes invités d'aujourd'hui. Passez de très très joyeuses fêtes. Au revoir.